On ressort ? Vous allez prendre l'autre issue en direction du quai des Savoirs. Vous passerez à droite du buste de Riquet, dont on aperçoit la chevelure. Et vous marquerez une pause juste après.
Vous avez trois conifères sur votre droite. Observez celui du milieu, le plus petit, sur la pointe de la langue herbeuse, au milieu de la fourche du carrefour. Marquez une pause, on va en dire deux mots. En français, on l'appelle Douglas, ou sapin de Douglas, bien qu'il n'appartienne pas au genre Abies, mais aussi pin d'Oregon. Contrairement à Archibald Menzies, dont on a parlé à propos de la Rocaria, qui aborde la côte nord-américaine du Pacifique par la mer, David Douglas, jardinier écossais, explore systématiquement de 1824 à 1831 l'Amérique du Nord, d'est en ouest, et la plupart du temps à pied. En 1827, il rapporte les graines d'un conifère pour lequel il sera honoré, puisque l'arbre porte d'abord le nom scientifique de Pseudotsuga douglasii. Mais par un tour de passe-passe ironique dont l'histoire a le secret, l'appellation scientifique du sapin de Douglas en vigueur de nos jours renvoie au nom de son rival, Pseudotsuga menziesii. Le Douglas a été introduit en France en 1842, mais ce n'est qu'entre les années 1970 et 2000 qu'il a été énormément planté. Avec 42 000 hectares couverts, il est aujourd'hui la deuxième essence de reboisement française. Et la France est le deuxième producteur de Douglas après les États-Unis. D'ailleurs, ce conifère, très utilisé pour la construction, coupé jeune, est devenu le symbole d'une gestion industrielle de la forêt, d'une monoculture à l'impact néfaste pour les écosystèmes.
Allez, on reprend. Vous allez continuer tout droit vers le quai des Savoirs et passer sous les branches de ce magnifique chêne rouge d'Amérique. Nombreux sont les voyageurs qui ont ramené des graines, mais toutes n'ont pas, comme celle du Douglas, survécu au voyage. Pour les graines et les plants, cette épreuve est, on l'a dit, redoutable.
Les taux de perte, hein, jusque dans les années 1840, sont énormes. Alors il y a des inventions scientifiques qui vont permettre quand même de modifier un peu les choses, notamment ce modèle de la caisse Ward, qui se développe dans les années 1840 et qui est une sorte de serre portable hermétique, hein, inventée par un médecin londonien qui voulait en fait pas du tout transporter des plantes exotiques, mais lutter contre la pollution londonienne dans les foyers pauvres en leur proposant de cultiver des plantes, hein, dans l'intérieur de leur maison. Et donc il invente cette boîte hermétique qui a tout un système de qui fonctionne en vase clos et qui est parfaite pour les voyages au long cours, en fait, parce qu'elle évite que l'eau salée, qui est dévastatrice pour les plantes, ne pénètre, et qui va modifier complètement, hein, la géographie de la circulation des plantes. Hein. Le thé cultivé en Inde arrive enfin indemne de Chine grâce à cette caisse Ward.
Vous continuerez tout droit et prendrez à droite au bout de l'allée.
Une fois débarquée, il faut que la plante puisse se faire à son nouvel habitat, s'y acclimater. Il faut qu'elle s'adapte à ce nouvel environnement, à la terre, mais aussi au climat. Et la première étape est souvent le passage par ce qu'on appelle les jardins des ports. Comme on peut s'en douter, sont installés dans les principaux ports, en relation suivie avec les Antilles, l'Amérique, l'Afrique ou l'océan Indien. On y accueille les plantes arrivées ou en partance. On les rafraîchit, on les consolide, on leur fait une beauté ou l'équivalent d'un massage cardiaque. Ces jardins ont été créés au cours du XVIIIe siècle et disparaissent progressivement, notamment avec l'apparition de la fameuse caisse Ward. Ainsi, les jardins des grands ports européens, comme Nantes, Rochefort ou Brest, sont un sas de remise en forme pour les végétaux en partance ou en provenance d'outre-mer. En plus de ça, on se sert dans les plantes qui y sont cultivées pour remplir ce que l'on appelle les coffres de médecine, le nécessaire pour soigner l'équipage.
Pardon, arrêtez-vous deux secondes. Vous sentez cette odeur de vomi ? Non ? Alors c'est pas la bonne saison. Mais on se trouve tout près d'un Ginkgo biloba femelle, sur notre gauche, et c'est lui qui produit cette odeur en automne. C'est l'arbre qui se trouve derrière les bacs à compost, celui avec un petit nichoir. On vous avait dit qu'on reparlerait du Ginkgo. Il est bien connu pour avoir résisté à Hiroshima et pour avoir été abondant à l'époque des dinosaures, ce dont peu d'espèces peuvent aujourd'hui encore se vanter. C'est également un symbole de longévité et on le pare de mille vertus protectrices. Mais on sait moins que son nom chinois, Yi Qing, Ying argent et Qing abricot, désigne les ovules qui apparaissent chez les arbres femelles au printemps, ces pseudo-fruits. Oui, car techniquement, ce ne sont pas des fruits, ils se développent hors fécondation par le pollen. À l'automne, ils prennent une coloration jaune dorée après avoir été recouverts d'une prune blanchâtre à argentée. Lorsqu'ils tombent, ces ovules dégagent une odeur pestilentielle. Vous l'avez sans doute déjà senti, cette odeur de beurre rance, près du Ginkgo qui fait l'angle entre la rue Lacanal et la rue Gambetta, ou près de celui Place Wilson. C'est l'acide butyrique qui rend toxique la partie charnue de l'ovule quand son amande, une fois grillée, est très appréciée au Japon. En ancien chinois, on appelait le Ginkgo Yocho, pâte de canard, pour désigner ses feuilles. Quant à biloba, il signifie qui a deux lobes, bilobé, car si c'est moins visible sur les grands arbres, les jeunes plants présentent des feuilles à deux lobes, caractéristique qui disparaît quasiment lorsque l'arbre atteint 10 à 20 ans.
On repart ? Continuez dans cette allée qui longe les grilles. En dehors de l'Europe, d'autres jardins ont un peu la même vocation. Le plus vieux d'entre eux est le jardin botanique de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, créé en 1652 sous l'égide de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Ce qui fait qu'il ne sert donc pas tout à fait les mêmes intérêts. Il avait pour vocation initiale de nourrir les colons et équipages de passage avec des légumes et des fruits qui leur rappellent un peu chez eux. Plus tard, on ménage dans ce jardin une petite partie dédiée à l'étude de la botanique. Au XVIIIe siècle, de nouveaux termes apparaissent pour nommer d'autres réalités. Ainsi, le jardin d'acclimatation, souvent d'origine privée, initié par des sociétés savantes. Ou le jardin d'essai, que l'on trouve dans les colonies et les territoires ultramarins, et où l'on tente de développer les cultures de nouvelles espèces à des fins commerciales. Cacao, canne à sucre, thé, pour ne citer que. En même temps que l'on forme les populations locales à la culture de ces plantes, qui venaient parfois de loin, comme le manioc, originaire du Brésil, qui a été introduit en Afrique par les Portugais.
Stop, regardez sur la gauche. L'arbre, le long des grilles, a l'écorce qui tombe en lambeaux. C'est un cédrel, ou cédrela, de Chine. Il a été découvert par le père d'Incarville, le même jésuite du palais impérial de Pékin qui a ramené le savonnier. Le cédrel a été introduit en Europe par des graines transportées par le consul de France, Eugène Simon, qui ont été plantées au Jardin des Plantes de Paris en 1862. Et l'arbre y est toujours. En Asie, le cédrel est assimilé à une plante alimentaire. Ses jeunes feuilles sont consommées comme légumes. Son bois précieux, clair, facile à travailler, est considéré comme un des meilleurs bois de Chine et du Japon, du même standing que l'acajou.
Allez, on continue. Pendant ce temps, en Europe, les savants continuent de nommer et de classer. Les jardins botaniques sont notamment au XVIIIe fortement organisés en réseaux, dans lesquels s'échangent certaines connaissances, mais aussi des graines. L'échange de graines est une pratique très ancienne. Mais en Europe, les jardins botaniques et les muséums sont jusqu'au XXe siècle les plaques tournantes de ce trafic. Tout ce qu'il y a de plus légal, rassurez-vous.
Vous allez tourner à droite à la prochaine.
On conserve des graines et on publie des index séminum et des catalogues pour que les institutions et spécialistes puissent voir l'étendue de nos collections et adresser leurs demandes aux jardins et muséums. La circulation de ces graines fonctionne le plus souvent selon une logique de don contre don.
Arrêtez-vous devant les représentants de cet arbre bien connu chez nous, au tronc brun grisâtre à petites écailles et aux feuilles dites palmées, comme une main grande ouverte, robuste et touffue. Le marronnier commun, Aesculus hippocastanum, aussi appelé châtaignier des chevaux ou marronnier d'Inde. D'Inde ? Pas vraiment. Il est originaire des régions montagneuses du nord de la Grèce. C'est par ses fruits qu'il est arrivé dans nos contrées, et son parcours est plutôt sinueux. L'espèce ayant été introduite à Constantinople en 1557, l'ambassadeur du Saint-Empire romain germanique dans la capitale ottomane aurait offert un marron prêt à germer à Charles de Lécluse, alors médecin de cour du Saint-Empire et responsable du jardin impérial. Le marronnier a ensuite été introduit à Paris en 1615 par un certain bachelier qu'il aurait ramené de Constantinople. Et c'est le début de sa carrière chez nous. En 1650, un spécimen est planté dans le Jardin des Plantes de Paris. En 1670, plusieurs servent d'arbres d'ornement dans l'avenue des Tuileries, et deux siècles plus tard, 80% des arbres des pépinières municipales de la capitale sont des marronniers.
Allez, reprenons. On ira s'asseoir sur le prochain banc qu'on croisera, sur notre gauche, après un autre bosquet d'ifs. En matière de correspondance botanique, André Toin, botaniste et professeur au Musée d'histoire naturelle de Paris, fait figure de centre de réseau fin 18e, début 19e. Car c'est le moment où les échanges entre jardins botaniques s'intensifient et où se dessinent les rapports de coopération et de dépendance entre jardins botaniques de province et jardins botaniques parisiens. Comme un poisson dans l'eau de ce vaste réseau, notre homme correspond avec le monde entier, des grandes institutions botaniques européennes aux ambassadeurs, en passant par les souverains étrangers, les paysans, les ministres et les sous-jardiniers. Lettre de Louis-Nicolas Joseph Foulon du Jardin botanique de Douai à André-Marie Constant du Méril du Jardin botanique de Paris, le 14 mars 1800.
Citoyens, informez que vous voulez bien m'obliger et que les relations que vous avez avec le citoyen Toin, jardinière en chef du Jardin des plantes de Paris, vous en facilitent les moyens. Je profite avec confiance des dispositions favorables que vous lui avez témoignées pour vous adresser la liste des espèces que je désire pouvoir me procurer pour compléter la collection des plantes que je fais dans le jardin botanique de la commune de Douai et dont je vous prie de faire la demande au citoyen Toin. Et je me crois d'autant plus fondé à espérer qu'il voudra bien la prendre en considération que son principal motif est l'utilité publique.
Les réseaux de jardins des plantes fonctionnent en partie sur des complémentarités. En France, certains jardins de province se spécialisent. Les botanistes toulousains, et principalement Philippe Picot de La Pérouse au 18e, Capitoul, et un temps directeur de ce jardin, s'intéressent de près à la flore pyrénéenne dont ils garnissent les plates-bandes et font figure de référence en la matière. Autre spécificité de ce jardin, et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est sa collection de conifères. Retournez-vous. À droite des autotamponneuses, vous voyez l'immense arbre au tronc double, couleur brun-rouge ? C'est un séquoia à feuilles d'ifs, Séquoia sempervirens, une espèce qui compte parmi les arbres les plus hauts du monde. Chaque année, le sempervirens grandit en moyenne de près d'un mètre et s'épaissit de 5 cm. Il aurait été introduit en Europe en 1840 par le rival de Douglas. Vous vous rappelez ? Archibald Menzies. Aux États-Unis, il était considéré par les Indiens comme l'arbre phénix, qui renaît de ses cendres, en référence à sa capacité à résister aux feux de forêt, grâce à son écorce épaisse et fibreuse. Le séquoia tire même profit des incendies. Ses cônes s'ouvrent sous l'effet de la chaleur, laissant s'échapper les graines. Mais ça, c'était avant les méga-feux de Californie, qui depuis 2020 en ont brûlé plusieurs dizaines de milliers. Le nom séquoia fait référence à un personnage à tort peu connu dans l'histoire. Séquoia, un orfèvre amérindien cherokee, inventeur d'un système graphique permettant d'écrire sa langue et publié en 1821. Son nom a été donné au genre de cet arbre par le botaniste autrichien Stefan Ladislau Endlicher, directeur du jardin botanique de l'Université de Vienne et lui aussi linguiste. On sait que les conifères tiennent leur nom de leurs fruits en forme de cône. Mais on sait moins que dans l'histoire du vivant, ils sont arrivés bien avant les feuillus. En gros, après les algues, les mousses et les fougères. C'est avec eux qu'apparaît la graine. Leur reproduction se fait grâce au vent qui transporte le pollen dans les airs et le dépose sur des cônes dotés d'ovules où l'union est scellée et où naît la fameuse graine. Et il faudra encore attendre quelques millions d'années avant que n'apparaissent les plantes dites à fleurs, avec leurs fruits, et dont la reproduction est moins tributaire des éléments puisqu'elle est aussi confiée aux insectes. Aujourd'hui, les plantes à fleurs sont majoritaires, mais ça n'est pas une raison pour nous détourner des beaux spécimens de conifères que nous avons là. Face à vous, le sapin de Sakhaline, Abies sakhalinensis, se dresse comme une pointe vers le ciel. Selon la saison, vous pourrez apercevoir ses cônes à sa cime. C'est grâce au professeur Henri Gossin, botaniste et biogéographe du XXe siècle, qui a donc donné son nom au jardin botanique de Toulouse, qu'il est là, comme beaucoup des conifères de ce jardin. Gossin s'est lui aussi intéressé de près à la flore pyrénéenne et a mis en évidence la notion d'étage, c'est-à-dire le fait que selon l'altitude et le climat, on trouve différents types de végétation qui se succèdent en autant d'étages. Mais il a aussi mis en évidence la notion de succession végétative, autrement dit, la manière dont les milieux évoluent dans le temps. D'abord certaines plantes, puis d'autres, et encore d'autres. Ces études l'ont amené à se pencher sur les conifères et à en introduire un grand nombre, ici dans le jardin, mais pas que.
On repart ? Continuez votre chemin en direction de l'entrée. Un peu plus loin, après le bus de Riquet, mais sur le côté droit, vous jetterez un œil à ce magnifique chêne pédonculé, Quercus robur, devant lequel on va passer.
Ce chêne est très commun par chez nous. Son tronc est épais et peut faire jusque 3 mètres de circonférence, ce qui lui permet de supporter son imposant houppier, ses branches et ses feuilles. Le tronc chez l'arbre et la tige chez les non-ligneux distribuent l'eau, les sels minéraux et les substances nutritives à toutes les autres parties de la plante via sa sève. Le cœur du tronc est dur, on l'appelle duramen. La sève n'y circule plus, le bois y est quasiment mort. La sève brute qui transporte les minéraux et l'eau monte depuis les racines par l'aubier, la partie plus périphérique de l'arbre, vers le houppier, où elle se charge du glucose obtenu par la photosynthèse réalisée par les feuilles. La photosynthèse, c'est le processus par lequel les plantes transforment le CO2 et les sels minéraux en sucre, rejettent de l'oxygène et le tout grâce à l'énergie solaire. La sève se charge donc du glucose, dont elle nourrit les différentes parties de l'arbre, avant de redescendre vers les racines pour éventuellement stocker le surplus.
Avant de retourner à notre point de départ, on va faire un dernier tour. Vous traverserez l'allée centrale et vous continuerez tout droit. À l'angle de l'entrée, au passage, vous regarderez ce petit arbre aux feuilles découpées sur votre droite. C'est un érable du Japon, un arbre très courant des jardins zen ou japonais. On aime les couleurs changeantes de ses feuilles et la finesse de son feuillage. Son arrivée en Europe est liée à un étrange individu, un naturaliste et médecin suédois, Carl Peter Thunberg, un des apôtres de Linné, un de ses 17 élèves les plus investis et qu'il enverra aux quatre coins du monde. Carl Peter Thunberg sera même surnommé le Linné japonais. En 1771, il se propose comme chasseur de plantes pour les jardins botaniques néerlandais à la Compagnie néerlandaise des Indes. Bientôt, il part pour le Japon, pays alors fermé sauf rares exceptions, comme celle de son prédécesseur allemand Engelbert Kämpfer, le type du ginkgo, 80 ans plus tôt. Ses expéditions sont périlleuses et dangereuses, mais il récolte de nombreux spécimens animaux et végétaux. Habile, il parvient à obtenir de ses interprètes l'échange de connaissances en médecine occidentale contre des spécimens de plantes. C'est ainsi qu'il publie Flora Japonica en 1784, même si beaucoup des espèces décrites viennent en réalité de Chine et avaient été importées au Japon pour orner les jardins. Quant à cet érable, il semble qu'il l'a bel et bien rencontré dans une forêt japonaise.
Vous avez vu ? On longe le jardin botanique Henri Gossin sur votre droite. Vous pouvez y accéder en entrant dans le musée. Nous voilà à proximité des serres desquelles il serait bon de dire un petit mot. Car c'est bien joli de parler des classifications et des étiquettes, mais encore faut-il que ces plantes puissent s'accommoder à leur nouvelle terre et résister aux conditions d'existence qui vont avec. Parce qu'on imagine mal un manguier dans une forêt vosgienne. Et l'humanité créa la serre. Dans le jardin Henri Gossin, on voit ces constructions à travers lesquelles filtre la lumière et dans lesquelles on distingue vaguement des végétaux. Les serres. Du verbe resserrer. Dans les premières qui apparaissent au XVIe siècle, on agglutinait ensemble toutes les plantes du jardin qui ne supportaient pas le froid ou le gel, mais qui le reste du temps vivaient très bien au grand air. On les tenait serrées, en attendant les mois plus cléments. Les serres sont d'abord affaires d'aristocrates et de grands bourgeois. C'est très chic d'avoir son petit grenadier en pot, d'inviter ses amis à venir humer la fragrance de l'oranger ou du citronnier. On ne fait alors pas la différence entre orangerie et serre. Puis viendront les plantes d'un peu plus loin, comme les ananas. Dans les jardins européens, on fait venir tout type de végétaux qu'on fourre dans les serres, alors que les jardiniers des colonies, qui eux aussi tentent d'acclimater des espèces, choisissent les essences en fonction de leur potentielle adaptation au climat et à la topographie des lieux.
Vous continuerez à gauche au bout de l'allée.
À l'époque, on pensait aussi que toutes les plantes exotiques avaient besoin de chaleur toute l'année. Les serres se sont ainsi vues remplies de tout un tas d'espèces qui ont vécu l'été, même en hiver. Grand exemple parmi tous, Magnolia grandiflora, encore lui, qui pousse un peu partout en France. Le Magnolia, donc, qui s'accommode très bien de nos hivers, était tenu en serre. Pareil pour l'hortensia, alors qu'il est devenu une plante emblématique de Bretagne.
Vous voyez l'immense sapin d'Espagne sur votre gauche, qui dépasse tous les autres arbres de plusieurs mètres ? Abies pinsapo. Originaire d'Andalousie et du nord du Maroc, peut facilement atteindre les 25 mètres. En France, il sert comme arbre d'ornement à partir de la moitié du 19e, mais au Maroc, son bois était distillé pour produire un goudron végétal qui avait divers usages. On l'utilisait pour imperméabiliser les outres en peau de chèvre, permettant de stocker l'eau. On l'avalait dilué pour soigner les ulcères, ou on l'appliquait sur les plaies et blessures. Il servait en tant que protection anti-maléfique et on s'en enduisait le corps afin de tenir éloigné les épidémies.
On prendra la prochaine à gauche, on dépassera le sapin et on traversera les jeux d'enfants en direction du chêne vert devant lequel on est passé tout à l'heure, à côté du petit pont. Magnolia et Hortensia sont des plantes d'ornement. Beaucoup d'espèces ont ainsi été choisies pour leur style ou leur fragrance. Certaines d'entre elles ont fasciné et suivi les cours de la mode. Parallèlement aux démarches savantes, se développent donc des collections. Un temps, l'Europe se passionne pour la fritillaire, cette fleur étonnante à bulbes et à motifs en damier. Au XVIIe siècle, les riches raffolent de la tulipe, et chacun veut en garnir son jardin au point qu'on a nommé ce soudain engouement la tulipomanie. Sauf que cette ruée vers le bulbe a généré la crise de la tulipe, que certains historiens ont retenue pour être la première bulle spéculative de l'histoire. En 1637, il semblerait que des promesses de vente pour un seul bulbe se négociaient pour un montant équivalent à 10 fois le salaire annuel d'un artisan spécialisé.
Au vieux chêne vert, vous prendrez à gauche pour rejoindre l'allée centrale.
La curiosité n'est pas un goût pour ce qui est bon ou ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce qu'on a et ce que les autres n'ont point. Le fleuriste a un jardin dans un faubourg. Il y court au lever du soleil et il en revient à son coucher. Vous le voyez planté. Et qui a pris racine au milieu de ses tulipes, et devant la solitaire, il ouvre de grands yeux. Il frotte ses mains, il se baisse, il la voit de plus près, il ne l'a jamais vue si belle. Il a le cœur épanoui de joie. Il la quitte pour l'orientale. De là, il va à la veuve, il passe au drap d'or, de celle-ci à l'agate, d'où il revient enfin à la solitaire, où il se fixe, où il se lasse, où il s'assied, où il oublie de dîner. Aussi est-elle nuancée, bordée, huilée, à pièces emportées. Elle a un beau vase ou un beau calice. Il la contemple, il l'admire. Dieu et la nature sont en tout cela ce qu'il n'admire point. Il ne va pas plus loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livrerait pas pour 1000 écus, et qu'il donnera pour rien quand les tulipes seront négligées et que les œillets auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une religion, revient chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée. Il a vu des tulipes. La bruyère, les caractères.
Pour finir la balade, allez vous asseoir sur un des bancs près de l'érable du Japon. À trop regarder ces parterres de fleurs et ces rangées d'arbres, on en oublierait presque ce que rappelait Hervé Brunon en début de balade. Il n'y a de jardin que s'il y a des jardiniers pour planter et entretenir. Qui sont au juste les têtes et les mains qui façonnent ces jardins botaniques ?
Les responsables de ces jardins sont des directeurs de jardin qui sont des naturalistes ou des médecins. Hein. Les formations sont un peu mixtes hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc des savants qui se consacrent à la botanique. Donc eux, ce sont ceux qui donnent le programme scientifique. Et puis dans ces jardins, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Des jardiniers, des ouvriers. Hein. Les jardins botaniques mobilisent une force de travail incroyable. On l'oublie souvent, mais cultiver des espèces exotiques en Europe ou cultiver des espèces européennes sous les tropiques, ça demande un travail de tous les instants. Il faut s'occuper des plantes. Donc on a toute une économie du travail du jardin très spécifique, qu'on ne connaît pas très bien encore, mais qui commence à être travaillée. Qui est très intéressante parce que on voit que ces beaux jardins de nature maîtrisée sont le résultat en fait d'un travail de tous les instants.
On a du mal à se figurer à quel point nos paysages et nos jardins sont façonnés par des siècles d'histoire mondiale qui imprègnent encore et toujours notre rapport au vivant. Qu'on ait l'œil fixé au microscope, rivé sur des gènes ou glissant méticuleusement de la tige à la feuille, il semble que notre regard ne se lasse pas de scruter le végétal. Les questionnements ne font que se déplacer, les focales aussi. Aujourd'hui, on s'inquiète de préserver les plantes des actions humaines. Les jardins botaniques et les muséums sont des forteresses où sont conservées les traces et quelques embryons des mondes végétaux. L'époque est aux banques de graines, mais elle est aussi à la recherche des figures oubliées de l'histoire, aux voitues. les femmes sont les grandes absentes de l'histoire de la botanique et de cette balade. Nous aurions par exemple voulu parler d'Anna Maria Sibylla Merian, naturaliste et peintre qui partit d'Allemagne avec sa fille en 1699 étudier la faune et la flore au Suriname, ou encore de Jeanne Barré, qui participa à l'expédition de Bougainville dans les années 1760 en se faisant passer pour un homme et qui fit un travail considérable d'herborisation. Mais les arbres de ce jardin n'ont malheureusement pas croisé leur trajectoire. Et si l'on redécouvre progressivement le rôle que certaines femmes ont joué dans l'histoire, ce sont exclusivement des noms d'hommes que l'on a rencontrés au cours de nos recherches. Nous voilà arrivés au terme de notre balade. Elle n'est qu'une petite entrée dans l'univers foisonnant de la botanique, qu'un cheminement dans la vaste histoire des jardins. Merci à nos interviewés, Hélène Blay, professeure d'histoire contemporaine à l'École normale supérieure de Paris et membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, Hervé Brunon, historien des jardins, du paysage et de l'écologie, directeur de recherche au CNRS, Centre André Chastel, Paris, et Samir Boumedienne, historien des savoirs et des arts, chercheur au CNRS. Un grand merci également à Boris Pressec, botaniste au Muséum de Toulouse, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous ont aidés dans nos recherches.